Allez, Bac FM, il est 10h30, c'est la dernière de la saison. Action, votre rendez-vous cinéma, c'est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Monster !
Tous les mercredis à 10h30, on a parlé cinéma avec Laetitia qui est avec moi, évidemment pour cette dernière. Salut Laetitia.
Salut Théo.
Dernière montée au grenier en fin d'émission.
Ouais, je suis pas allé chercher très très loin dans les rayonnages aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, t'as pris un film un petit peu plus récent.
Exactement, mais c'est un bon petit film d'été, je trouve.
Ouais, on va en parler tout à l'heure. Une avant-première aussi d'un film très attendu qui arrive mardi au ciné Mazarin. On va en parler tout à l'heure, les sorties ciné de cette semaine, avec 4 nouvelles propositions depuis aujourd'hui. Et puis on parlera de Lars von Trier aussi, c'est un grand réalisateur tout à l'heure. Enfin, c'est surtout Manuel qui va nous en parler, notre spécialiste cinéma. Bonjour Manuel.
Bonjour Théo, bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Bonjour Manuel.
Manuel. Content de vous retrouver en studio.
Mais oui, c'est vrai.
Plaisir partagé.
C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu en studio. La dernière fois qu'on s'est eu en studio, c'était pour un Parlez-moi de vous.
Exactement.
C'était un portrait et puis après, tu nous appelais tous les mercredis et tous les vendredis aussi en direct pour parler cinéma.
Voilà, j'ai maintenu le fil avec vous.
Tu es avec nous pour nous parler des sorties ciné, aussi du box-office. Et je crois que tu es content d'une arrivée. Hein.
Oui, effectivement, parce que cette semaine va être marquée par le retour dans les salles obscures de la saga d'action, hein, on connaît tous,
ouais.
Tom Cruise, avec Mission Impossible. Et puis, on aura un coup de projecteur sur un film qui sort de l'ordinaire et qui est véritablement étonnant. C'est un film français qui s'inspire de faits réels, je n'en dis pas plus.
Ouais, un film breton. On va sortir les bigoudens, Manuel.
Oui, en plus, moi qui ai des origines bretonnes, je suis content de pouvoir mettre ça sous les feux des projecteurs.
Ouais, c'est vrai que c'est un beau film important aussi,
oui,
c'est vrai.
Important en termes de société.
On va revenir dessus tout à l'heure, on aura ton avis sur tous les films qui arrivent au ciné Mazarin. Mais juste avant, on va faire le point sur le box-office. Un box-office avec du changement, enfin. Et ce n'est pas un miracle de voir la première place prise par Deschats. Enfin, Deschats, pas vraiment. Miraculous est en pole position de ce classement avec 660 000 fans pour cette première semaine. Manuel, tu nous rappelles Miraculous, ce que c'est? Tu nous en avais déjà parlé d'ailleurs.
Oui, j'en avais déjà parlé, effectivement. Eh bien, ça nous conte l'histoire d'une super-héroïne, c'est Ladybug. C'est né sous le trait de Crayon de Thomas Astruc. Ça a été adapté au cinéma par le coproducteur de la série, Jeremy Zag, et c'est lui qui a réalisé le film et qui a écrit le scénario. Alors nous sommes à Paris, puisque c'est également le personnage central de ce long métrage, qui est filmé à travers, bien sûr, ces monuments emblématiques, dont la Tour Eiffel. Et puis, il le dit d'ailleurs, le créateur, les gens aiment Paris à travers le monde, c'est un lieu de contes de fées, et il a voulu en donner une vision chanter, et c'est plutôt réussi, ça fonctionne parce que les personnages sont attachants. On retrouve dans le film un mélange de, à la fois de scènes d'action, ouais, scènes d'amour, et puis on peut s'identifier. Et ça n'est pas pour nous déplaire à Théo et à moi-même, c'est que la véritable héroïne, c'est pas la version masquée, mais c'est bien Marinette.
Ouais, c'est ça en fait, il y a un certain contraste entre les deux.
Voilà, il y a une espèce de dédoublement, mais c'est dans ce film qu'on peut l'affirmer haut et fort, que l'homme est sauvé par la femme, et c'est, on le voit, c'est le girl power, ouais, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur.
Et un film d'animation, évidemment jeunesse, mais pour toute la famille, hein, tout le monde peut se retrouver dans ce film d'animation.
Clairement, ça fait plaisir aux grands, aux petits, c'est un film tout court, un film de cinéma tout court, qui ravira vraiment toute la famille sans aucun doute.
Et c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin, comme Indiana Jones et Élémentaire qui complètent le classement, des films pour toute la famille sur le podium et rien d'étonnant avec Les Vacances finalement. Et puis L'Ultime Aventure d'Harrison Ford, elle frôle les 2 millions de spectateurs alors que la dernière création Disney Pixar est juste en dessous du 1 500 000. De nouveautés démarre plutôt bien, et une fois n'est pas coutume, c'est un film qui donne les frissons. 310 000 adeptes de Porte Rouge qui font peur se sont déplacés en salle. Insidious The Red Door cartonne pour le retour de cette franchise. Ça n'a rien d'étonnant, hein, Laetitia?
Non, ça n'a rien d'étonnant pour la franchise qui a largement su s'imposer chez les fans de cinéma d'horreur, qui avait plébiscité les deux premiers volets réalisés par James Wan. Alors même si les volets 3 et 4 d'Insidious, ils avaient moyennement convaincu, ce cinquième film, The Red Door, il était très attendu, d'autant qu'il se place comme la suite de l'histoire originale qui avait été développée donc dans les deux premiers, avec les mêmes personnages, les mêmes acteurs. Et cette fois, la réalisation, elle est signée par Patrick Wilson, qui incarne Josh Lambert, le père de famille, qui va devoir affronter avec son fils Dalton tous ces démons qui sont cachés donc derrière cette porte rouge pour débarrasser définitivement la famille de ces démons. Ça devrait être l'ultime épisode, mais avec les films d'horreur, on sait jamais.
On sait jamais, c'est ce que tu nous disais déjà la semaine dernière, hein. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle sortie.
Pour l'instant, les retours, ils sont très mitigés.
D'accord, ok. Selon les critiques presse ou selon les spectateurs?
Un peu selon les deux, en fait. J'ai regardé si c'était que les spectateurs. Alors, il faut savoir que les fans de cinéma d'horreur, quand ils vont voir un film, en général, ils sont pas contents. En général, quand ils sortent, ouais, c'est nul. Et c'est après que l'estime remonte. Mais c'est un public qui est friand, mais qui a la dent dure.
Qui est difficile à convaincre. Manuel, t'es un adepte, toi, de films épouvantes, de films horreurs?
Oui, je suis un adepte. Je vais souvent voir ça le soir. Ça m'arrive à la séance de 22h. Alors j'ai vu Insidious de Red Door et j'ai été déçu. Alors que j'ai vu tous les précédents, parce que ça manque de rebondissement. On frissonne assez moyennement. Il y a une dimension psychologique où on revient aux sources des traumas. J'étais à deux doigts de m'endormir, donc quand même pour un film d'horreur, c'est pas très concluant. Alors j'aime beaucoup Patrick Wilson, c'est un très bon acteur, ça fait aucun doute, donc l'interprétation est pas du tout à mettre en cause. D'ailleurs, dans les dossiers Warren, il est vraiment formidable,
il est exceptionnel,
quand Laetitia disait très mitigé, moi je suis vraiment déçu.
Mais c'est vraiment ce qui revient, hein, c'est qu'il n'y a pas de rebondissement, c'est qu'on s'ennuie,
Donc, je le recommande pas.
Bon, mais il est toujours à l'affiche du cinéma Zarin quand même, pour ceux qui veulent avoir leur propre avis sur ce film, donc le dernier Insidious. Est-ce que tu es plus un adepte de pyramides et de potions magiques, Manuel?
Ah ben moi j'aime bien ça clairement, je suis un fan d'Astérix, et que ce soit en album ou au cinéma, bien évidemment.
T'as compris de quoi je voulais parler, le retour d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est de retour avec 180 000 spectateurs qui sont allés voir donc ce géant du cinéma français qui revenait. Tu nous en avais parlé, version remasterisée
avec
4K,
quelques bonus et tout.
Exactement, exactement.
Pour et donc, 5€.
Et qui dépasse donc maintenant les 14 500 000 entrées, forcément.
Donc ça c'est chouette, parce que Alain Chabat, c'est un passionné, et puis il avait un casting phénoménal. On peut le dire, c'est une des meilleures adaptations cinématographiques d'Astérix
et Obélix. Oui, bien sûr. C'est un pari gagnant donc pour Alain Chabat. Je pense pas qu'il faisait ça pour le score. Disais en plaisantant dans les émissions précédentes qu'il allait dépasser celui de Guillaume Canet. Je pense que ça va être compliqué, il faut pas se leurrer. Mais c'est un pari quand même gagnant pour lui, un retour qui montre que ce film quand même garde une âme de réussite, hein, Astérix et Obélix.
C'est vraiment ce qui caractérise le cinéma d'Alain Chabat, c'est l'enthousiasme, les trouvailles aussi, et puis c'est un très bon directeur d'acteurs. Il a un casting, parce qu'on a vu certains Astérix avec vraiment des affiches étincelantes et une direction d'acteurs très flottante. Là on voit que ce soit le monologue d'Edouard Baird, justement une version bonus, Jamel Debbouze aussi qui explosait dans ce film. Donc incontestablement, il y a du plaisir, il y a du bonheur, à la fois pour lui qui est derrière la caméra, et puis pour ceux qui sont devant la caméra, les acteurs, et pour les spectateurs in fine.
Et puis grâce aussi à la promotion, ça a remis en lumière certaines d'anecdotes sur ce film, et notamment le fait que ce film a un petit peu sauvé la carrière, même complètement sauvé la carrière de Gérard Darmon. Je sais pas si t'as entendu cette anecdote, il était entre guillemets au fond du trou à ce moment-là, il était endetté, il avait des gros soucis d'argent, et il a accepté ce rôle sans trop imaginer la réussite qu'il pourrait y avoir derrière, et ça l'a remis sur le devant de la scène, Gérard Darmon, et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir la carrière qu'il a maintenant.
Alors Gérard Darmon, c'est vrai qu'il a connu ce qu'on appelle des trous d'air. C'est un personnage mystérieux, très énigmatique, pas forcément sympathique d'ailleurs, hein, je le dis, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, parce qu'il est un peu victime du syndrome de la toute-puissance, et parfois donc il s'égare. Voilà, il n'est pas forcément très abordable,
D'accord.
et notamment auprès des fans qui voudraient lui demander un petit autographe.
Ouais, bien sûr, ou un moment,
je l'ai croisé
ouais.
plusieurs fois dans des festivals. Voilà, certains pourraient dire qu'il est un petit peu perché.
Est-ce que tu aimes bien Alex Lutz ?
Oui, et je l'ai rencontré, et j'aime beaucoup à la fois le showman, ouais. l'acteur et le réalisateur.
Alors c'est une transition très bien, parce que c'est un réalisateur français que j'aime beaucoup, et qui signe un duo très réussi avec Karine Viard. Dans Une nuit, il filme comment une dispute dans le métro entre une femme et un homme peut être vite basculée en désir brûlant au point de faire l'amour sur le quai à la sortie du métro. Un film...
Très chaud hein.
Ouais, ouais, non mais très chaud comme film. Un film avec... on y voit voilà Paris aux rues désertées, aux heures étirées, et où est repoussé entre ces deux personnes le moment du au revoir, bande-annonce.
Vous voulez dire pardon, hein ?
Bon ben ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus.
D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture.
Je me serais excusé mille fois, vous m'auriez quand même fait chier.
Vous faites quoi ?
C'est engueulé 6 minutes, on a baisé les 6 autres, et y a vraiment pas de quoi en faire des caisses.
Non, dans la vie. En fait, Émeric.
Nathalie. Et du coup, ce soir, les vieilles essoufflées disponibles, c'est plutôt votre type. On va où ?
J'ai une famille.
Moi aussi, j'ai une famille. On trouvera une excuse.
Et deux filles.
Deux filles, oui.
Deux filles aussi.
Ah ! Parfois, tu mesures le bonheur, arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté. Des moments de communication où l'harmonie est parfaite.
Alors, vous lui en vouliez pourquoi, en général, à votre mari ?
J'en veux pas.
Vous êtes pas là ce soir pour rien ?
Vous savez qu'on va pas pouvoir se revoir. Hein.
Comment je vais avoir du courage ?
Qu'est-ce que vous cherchez la nuit ?
D'être amoureux avec ce nouveau premier bonjour.
On va se dire au revoir.
On se revoit pas.
Une nuit, c'est le dernier film d'Alex Lutz qui rassemble 60 000 visiteurs. J'avais adoré son film Guy, c'est ce qu'on parlait avec Manuel pendant oui. la bande-annonce.
Ah bah Guy, c'est un hommage à la chanson populaire.
À la variété française.
Ouais, la variété française. Mmh. On le voit à travers le temps. C'est une performance phénoménale hein, d'Alex Lutz.
Ah ouais, ouais.
Qu'on
dans
voit
le jeu, dans le maquillage, dans la prestance, c'est incroyable comme film.
Et c'est lui qui chante aussi. Hein.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Donc c'est aussi une performance de chanteur. Film pour lequel il avait obtenu le César, largement mérité. C'est du cinéma français de grande qualité.
Ouais.
Je crois qu'on peut le suivre dans sa filmographie et sur son sillon.
Et c'est un film que vous pouvez retrouver sur nombreuses plateformes. Il faut le louer ou l'acheter. Mais vraiment, c'est un film que je vous invite à aller voir parce que c'est tourné en plus en sorte de manière un petit peu documentaire, très
totalement,
intimiste.
Totalement.
Mais c'est un film magnifique que je vous invite à aller voir. On va se tourner maintenant vers les films qui sont tout nouveaux au ciné. Mazarin générique.
Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Et voilà, on a les droits.
Et on a les droits d'aller voir 4 nouveaux films au cinéma Mazarin aujourd'hui, avec des destinations et des thèmes abordés qui sont bien différents. On va aller en Corse pour des vacances mouvementées. On va aller en Bretagne dans une affaire réelle qui avait dérangé à l'époque. Et on ira même à l'étranger en Italie juste avant. Manuel, eh bien, on a des nouvelles d'Ethan Hunt.
Oui, Carrément, il est de retour et je sais que les aficionados l'attendent avec impatience. Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Voilà, en quelques mots, pour l'intrigue, un sous-marin russe coule sous la banquise après que l'intelligence artificielle qui était censée le protéger se soit retournée contre lui. Alors c'est vrai que c'est à la mode, hein, l'intelligence artificielle. Dans ce long métrage, elle est surnommée l'entité. Elle est capable de brouiller et pire même d'altérer, de modifier les données de tous les systèmes électroniques imaginables. Donc l'agent secret Ethan Hunt et son équipe de Mission Impossible sont chargés de retrouver les deux parties d'une clé qui permettrait d'accéder à l'entité. Voilà pour le point de départ de ce septième volet. Hein, c'est une saga d'action et d'espionnage qui se porte bien. Et Tom Cruise, il faut le dire, sexagénaire, il a 61 ans, Tom Cruise. Ouais. Il a récemment déclaré dans une interview que son corps est son outil de travail. Ça veut dire qu'il s'entraîne en permanence, qu'il essaie d'effectuer, alors il n'effectue pas toutes les cascades, mais une bonne partie d'entre elles pour être le plus crédible et pour donner vraiment corps à ce personnage qui est un personnage fétiche dans sa carrière.
Est-ce que tu as un petit peu peur aussi que cette franchise, elle perde un petit peu, elle s'essouffle un petit peu?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un risque.
C'est la peur qu'il y avait avec Indiana Jones, ça n'a pas été le cas. Mais certains disent que voilà, ils pensent qu'il faut arrêter, stop. Voilà, c'est le dernier bon film après.
Alors, il faut se méfier. Il y a un écueil qu'Indiana Jones n'a pas réussi à éviter en partie, c'est le fait que on veut vraiment aller au-devant des jeunes générations et pour ça, le rythme ne doit pas faiblir. Aucun temps mort. Or, je trouve qu'il faut un petit peu, pour donner du relief à l'action, il faut de temps en temps un petit peu être en creux. Et dans, par exemple, Indiana Jones, le dernier, l'action ne lâche pas une seule seconde le spectateur. Ouais. Alors, ceux qui aiment le cinéma d'action, bien sûr, seront ravis.
Mais ça peut être épuisant pour certains.
Ouais. Ça peut être épuisant. Mmh. Ça, c'est incontestable. Alors, il faut le dire, hein, Tom Cruise, lui, il est impressionnant parce qu'il sait se renouveler à la fois dans la direction d'acteur, à ses côtés. Il a des personnages féminins, par exemple, un casting assez impressionnant. Il y a Ilsa, l'agente britannique, qui est incarnée par Rebecca Ferguson, qu'on avait déjà vu dans deux épisodes précédents, qui effectue un retour fracassant. Il y a aussi la Veuve Blanche, incarnée par Vanessa Kirby, qui était présentée aussi dans l'avant-dernier opus, sans oublier une jolie arnaqueuse qui vient compliquer la tâche donc, de la mission, c'est Grace. Et puis, il y a aussi une comédienne française. Donc voilà, tout cela donne autour d'Ethan Hunt une belle présence féminine, et tout en glamour et en femme d'action.
Je ne sais pas si la deuxième partie, la date a été dévoilée ou pas, je ne suis pas sûr.
Non, pas encore, mais on peut compter sur justement Tom Cruise pour être au meilleur de sa forme. En tous les cas, il est absolument éblouissant.
Et en tout cas, la partie 1 est à retrouver à l'affiche de votre ciné Mazarin pour le retour donc de Mission Impossible. Tom Cruise qui signe donc son retour et Khedija, elle, son retour, il est sur sa terre natale en Corse. Khedija, elle travaille pour une famille parisienne qui lui propose de s'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. C'est l'occasion pour elle de retourner avec ses filles sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances qui sont assez compliquées. Et justement, Khedija, elle va devoir surmonter ses souvenirs alors que les deux adolescentes, elles se laissent aller à toutes les tentations estivales, des rencontres inattendues, les 400 coups, les premières expériences amoureuses. Un voyage qui sera l'occasion pour elles de découvrir une partie cachée de leur histoire. Bande annonce.
Vous êtes déjà venus en Corse? Regardez-moi. Les filles, on a une piscine à la maison. Vous êtes les bienvenues. Comme vous voulez.
Tu vas pas rentrer chez les gens comme ça?
Ils m'ont invité, c'est pas pour rien que je suis là.
Ça va? Vous êtes tranquille?
En tout cas, bravo pour Sciences Po, Jessica.
Merci.
Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse.
Ça va? T'as fini? On peut se voir si tu veux. Pour faire des trucs. Je te montrerai un peu tes petits endroits secrets.
Dégagez, bande de bâtards! Fais ta gueule!
Tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes?
Rentre dans ton pays, toi aussi.
Qu'est-ce que tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Tu veux voir ma carte d'identité, peut-être?
Je veux voir ta carte de séjour, plutôt.
Je suis contente que tu m'aies rappelé.
Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux.
T'avais quel âge quand il est mort, ton père ?
3 ans. C'était ton premier amour ?
Oui. T'as jamais pécho avant ?
Non, j'ai pécho personne avant, non.
Les gamines, elles ont pas envie de voir leur grand-mère.
Et c'est pas qu'on est là.
Moi, tu sais qui je suis.
Tu nous as privés de père, tu nous as privés de famille, on a grandi seul, on a grandi sans rien.
Tu la connais, toi, Khadija, tu la connais mieux que moi.
Assez peu, elle est très pudique.
Ah, c'est une question de culture, ça.
Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal, hein, d'être un peu plus pudique.
Et pas comme toi, Gaïa.
Pourquoi tu dis ça?
Elle est bizarre, cette fille.
Mais tu la connais même pas.
T'aimes bien ses petits cheveux carrés, là. C'est ça, ton style. Les petites corses. Vous avez des soucis avec les corses dans cette famille.
Le retour, c'est le nouveau film de Catherine Corsini qui est la réalisatrice de La Fracture. La belle saison aussi avec Isia Higelin et Cécile de France, des films qui traitent beaucoup de l'amour. Et c'est encore le cas avec ce film disponible donc au ciné Mazarin. Manuel, Le retour, c'est un film qui a fait l'objet de pas mal de polémiques.
Oui,
Cannes.
En effet, puisque dans la dernière ligne droite, alors que le film avait été présenté comme faisant partie de la sélection officielle, il était question de le retirer. Polémique à propos des conditions de tournage, à la fois sur le plan syndical, ouais, avec les différents métiers qui interviennent dans la confection d'un long métrage, et puis aussi par rapport aux jeunes actrices, donc sur les conditions de tournage, et notamment des scènes dénudées, des scènes à caractère sexuel. Donc, au dernier moment, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, donc l'a rattrapé, l'a repêché. Voilà, je sais qu'il y a des procédures qui sont en cours, indépendamment de cette dimension un peu juridique. Donc, tu le disais, Théo, c'est le 12e film de Catherine Corsini. Moi, je me souviens de La Nouvelle Ève avec Karine Viard,
oui, aussi,
qui a été vraiment une révélation. Donc ça, c'est un long métrage qui parle du choc des cultures, qui parle aussi d'une violence sociale. C'est un film poignant avec de jeunes comédiennes qui sont assez formidables, qui ont fait l'objet d'un casting, et il faut le souligner. Il y a Aissatou Diallo-Sagna, aide-soignante qui a été césarisée en 2022 pour sa prestation dans La Fracture, donc qui confirme vraiment ses talents d'actrice. Donc une dimension émouvante dans ce long métrage, Le Retour, donc signé Catherine Corsini.
Que vous pouvez retrouver au ciné Mazarin. On va rester pas très loin de la Corse, on va juste se décaler un petit peu et on va partir en Italie, vers un avenir radieux plus précisément. Manuel, un film que tu as déjà évoqué et qui fait son arrivée enfin au ciné Mazarin.
Bah, on est très content que le ciné Mazarin soit l'écrin qui va lui permettre de briller à Nevers et dans la Nièvre. Donc alors, après l'obscurité, la lumière, puisque 2 ans après le sombre, très piani, qui se déroulait dans un immeuble et qui racontait la vie des différents protagonistes, et bien Nanni Moretti, Nanni Moretti, c'est quand même Palme d'Or au Festival de Cannes avec La Chambre du Fils. En 94, c'est Journal Intime qui avait été un succès mondial. Et donc là, au Festival de Cannes, ce film, Vers un avenir radieux, a présenté donc au festivalier Giovanni. Alors souvent chez Nanni Moretti, c'est un petit peu son double. Il y a une dimension autobiographique, et donc là, Giovanni, c'est un cinéaste sexagénaire qui est bien connu de la critique et reconnu dans son pays, mais qui est victime de différents tourments parce que il est en train de tourner un nouveau film. Son épouse est la productrice de ce nouveau film. Elle s'apprête à lui faire des infidélités parce qu'elle produit un jeune talent en herbe. Donc Nanni Moretti se voit un peu, enfin Giovanni Moretti se voit un peu bousculé dans ses certitudes de cinéaste. On le voit un peu dans des monologues. Il y a sa fille qui s'entiche d'un homme qui est plus âgé que lui. Donc là aussi, ça peut déstabiliser. Donc c'est un peu la crise de la maturité, Théo. C'est-à-dire que, est-ce que le cinéma, est aujourd'hui très bousculé un peu partout, est-ce que lui, le cinéaste, doit se remettre en question, y compris dans sa vie personnelle? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de thèmes dans ce long métrage.
Et c'est aussi un réalisateur qui va toujours chercher un côté très intimiste, hein, de ces personnages, que ce soit un côté personnel à lui ou non d'ailleurs.
Non, c'est vrai qu'il arrive à toucher, c'est souvent d'ailleurs en arrière-plan la société italienne à travers ses mots. On sait par exemple qu'il a beaucoup lutté dans ses films contre Berlusconi. Petite pensée, puisque Berlusconi vient de quitter la scène. C'est la fin de partie, ça a été la fin de partie pour lui. Et Moretti considérait que Berlusconi avait fait beaucoup de tort au cinéma italien, avec la télévision, avec son empire, sa pieuvre, avec aussi des contenus, on va dire un petit peu low cost, et que lui a défendu un cinéma d'auteur, un cinéma engagé, y compris politiquement. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans son long métrage. Et puis il y a une charge qui est assez hilarante contre la plateforme Netflix. Au moment où le financement de son film est un peu en panne, il va au travers d'un rendez-vous avec les cadres de Netflix essayer de trouver justement des sources de financement. Et alors là, à ce moment-là, ils lui disent Netflix diffusé dans 190 pays, et ils lui demandent quel est l'arc narratif de votre long métrage. Alors Giovanni Moretti, il a un cinéma qui parle pour lui-même, avec cette dimension que tu soulignais, Théo, qui est une dimension intimiste. Donc l'arc narratif, en plus il a envoyé le synopsis, donc on voit bien que c'est pas le contenu qui intéresse Netflix, c'est souvent des noms, des signatures. Il faut qu'il y ait des rebondissements très, très rapidement pour justement ne pas lasser les téléspectateurs.
Il se dégage un petit peu des films qu'on pourrait dire films d'auteur.
Exactement. Alors c'est à la fois nostalgique, mais aussi ça montre qu'il a encore de la sève et de l'énergie, et notamment au travers des combats qu'il a toujours menés.
C'est ce que vous pouvez retrouver donc dans le film Vers un avenir radieux. On va juste souligner quelque chose, c'est qu'il est disponible au cinéma Zarin en Vost FR, en version originelle sous-titrée FR. Il faut le préciser quand même aux personnes qui vont le voir.
Et je pense que Théo, toi qui vas bientôt mener tes aventures en Italie.
Je vais vers un avenir radio d'une semaine en Italie, en revanche.
Exactement, et tu vas pouvoir justement travailler ton italien.
Oui, c'est vrai, je traduirai le film. Est-ce que vous connaissez, maintenant on va se diriger vers le dernier film qui est disponible au cinéma Zarin, est-ce que vous connaissez Laetitia Manuel, ou est-ce que vous avez entendu parler de ce scandale qui avait fait beaucoup parler, qui s'appelle Les Algues Vertes?
Ouais, et j'ai même vu une interview de Céline Salette il y a 2-3 jours.
Ah, donc tu vois de quoi je vais parler.
Tout à fait.
Ah oui, moi aussi, comme Laetitia, c'est un problème de société, et ce sont les consciences, et ça ne date pas d'hier. Et moi qui suis d'origine bretonne, je peux vous dire que c'est vraiment un fléau.
Ouais, les algues vertes, donc, ce sont des algues qui, lorsqu'elles s'accumulent en masse hors de la mer, elles rejettent un gaz toxique pour l'homme. Pour l'être humain, du moins. En 2019, il y a une enquête qui est sortie sous forme de BD. Inès Leroux, c'est la journaliste qui a signé l'enquête, et elle dénonce dans cette BD la responsabilité, entre autres, de l'agriculture intensive. Cette enquête, elle a fait grand bruit, au point qu'elle a reçu des menaces. Pierre Jolivet a eu envie de mettre sur grand écran cette enquête en créant une fiction inspirée, très largement même inspiré de faits réels. Dans Les Algues Vertes, on suit une jeune journaliste jouée par Céline Salette qui s'installe en Bretagne pour enquêter sur le phénomène. Elle va vite découvrir la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique dont tu parlais, Manuel, et elle va tout faire pour que la vérité éclate, à ses risques et périls. On en parle juste après la bande-annonce.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé?
Ouais. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Mais tu tomberas toujours mal.
Lâchez la mort ce que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire.
Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro.
Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture?
C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent.
Vous savez ce que c'est, la vraie violence?
C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans.
Des reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens?
Faites attention à vous quand même.
Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique.
Il faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
Les Algues Vertes, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin, le film qui a cartonné lors des avant-premières en Bretagne, Manuel.
Oui, ça c'est clair, parce que ça touche directement les spectateurs. Ouais. Il faut le souligner, vous les avez entendus, il y a des actrices formidables, Céline Salette, Nina Meurice, et puis Julie Ferrier, qui est une actrice assez rare au cinéma, mais toujours beaucoup d'intensité donc dans les rôles qu'elle se choisit. Alors, il y a la forme d'un thriller qui nous plonge en Bretagne, avec cette enquêtrice qui tente de dénoncer la pollution au nitrate. Et puis ça permet, et tu le soulignais dans ton introduction Théo, de faire connaître au grand public vraiment les ravages de cette agriculture intensive, et notamment les élevages de porcs qui gangrènent les sols et le littoral breton. Il y a bien sûr aussi, on le voit très rapidement, les pressions politiques, il y a les syndicats agricoles aussi, tout ça c'est la toile de fond. Et c'est un film vraiment à la conscience sociale, d'utilité publique, parce que c'est un désastre écologique et il faut vraiment que les ados, les amis, les enfants, les parents aillent voir ce film en famille pour que la planète tourne un petit peu plus rond.
Ouais, et ce qui est impressionnant aussi dans ce film, c'est qu'on se rend compte que tout est vraiment inspiré de faits réels. Donc toutes les pressions qu'a connues la journaliste, c'est des pressions qu'a vraiment connues la journaliste dans la vraie vie en fait.
Oui, parce que on le sait, quand on est sur le terrain, quand on est reporter, on est au contact des politiques, on est au contact aussi de lobbies, par exemple les syndicats agricoles, avec des intérêts contradictoires, avec parfois aussi des pressions, y compris des menaces prononcées à l'encontre des enquêtrices ou des enquêteurs. C'est la liberté de la presse qui est menacée, donc il faut faire en sorte que cette conscience écologique, qu'elle soit respectée et surtout qu'il y ait une prise vraiment de conscience de la part des citoyens.
Et c'est un film qui a eu un tournage aussi assez chaotique parce que c'était compliqué d'aller tourner des fois sur les plages en Bretagne parce que ils étaient empêchés par notamment les syndicats agricoles qui ont été invités lors des avant-premières en Bretagne. Il y a eu des échanges aussi avec eux et le réalisateur disait qu'au final, ce film avait peut-être fait bouger les mentalités d'un point de vue aussi des agriculteurs comme d'un point de vue des consommateurs et des habitants bretons, qui du coup ont un avis un petit peu différent sur cette fameuse polémique des algues vertes.
Oui, parce que il y a des intérêts qui sont contradictoires et c'est la voie d'un dialogue qui essaie de se construire. Comment comprendre, parce qu'il y a une dimension de la planète, mais c'est valable pour plein de sujets qui agitent la société aujourd'hui.
Ouais.
Dimension économique, comment continuer à vivre et travailler au pays. C'est compliqué, y compris chez nous, dans la Nièvre ou dans le Morvan. Il faut ménager parfois les intérêts des uns et des autres, essayer de s'écouter, c'est très important.
Ouais.
Écouter la parole de l'autre. Et puis après, médiatiser et trouver des voies de passage.
Et ce qui est appréciable aussi dans ce film, c'est que le réalisateur n'hésite pas à prendre aussi la défense des agriculteurs, des producteurs sur certains aspects. On l'a entendu dans la bande-annonce, c'est le cas avec le prix par exemple du lait. C'est quelque chose qui revient beaucoup, le prix du litre de lait n'évolue pas, c'est toujours 14 centimes, etc. Et c'est quelque chose qu'il n'hésite pas à mettre en avant dans ce film aussi pour pas forcément que incriminer les agriculteurs et prendre leur défense sur certains aspects aussi de leur métier.
Oui, c'est vrai qu'il a réussi à éviter la dimension manichéenne.
Ouais.
Avec des faits qui sont objectivés. C'est pour ça que c'est un film... Moi, j'aime bien ce genre de cinéma, c'est les films dossiers, très concrets, ouais. Qui parlent de la réalité de ce monde aujourd'hui éminemment complexe, ouais. Et pour lequel on essaie d'avancer, trouver des voies de passage, mais on sait que... c'est loin d'être simple.
Ça s'appelle Les Algues Vertes et c'est disponible au ciné Mazarin. C'est un film qu'on vous invite à aller voir. On a encore pas mal de choses à voir justement ensemble. Il y a une avant-première très attendue, c'est juste après le dernier One Republic. Bougez pas, on revient. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane, but you are. Runaway, c'est le dernier One Republic, vous êtes sur Bac FM, on parlait avec Manuel de la suite. On parlait de la suite parce que ben, vous êtes dans Action, votre rendez-vous ciné, je suis avec Manuel, avec Laetitia, c'est la dernière de la saison. On parlait de la suite, de ce qui arrive, et on va parler eh bien, d'un réalisateur danois, 14 films, dont certains qu'on pourrait classer comme OVNI, je pense que je ne me trompe pas, Manuel.
Très juste.
Souvent décrié, critiqué pour son cinéma très sombre et cru. Il assume ce côté avec des aspects qui sont toujours très spécifiques dans ses personnages, et ce qu'on retrouve dans de nombreux cinémas en France et bientôt j'espère à Nevers, car nombreux de ses films sont reprojetés ou projetés pour la première fois dans certains cinémas à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'est une belle rétrospective de sa carrière qui est présentée. Alors Lars von Trier, pour vous le présenter au travers d'une phrase et d'un propos, c'est presque tout me fait peur dans la vie, sauf de réaliser un film. Donc c'est dire si le personnage est particulier. Moi j'ai envie de le présenter en disant que c'est quelqu'un de baroque. Il est né en 1965 à Copenhague. Il est à la fois acteur, scénariste et réalisateur. Alors il est connu, tu le disais Théo, pour son goût de la provocation, mais aussi de la polémique. Il est aussi connu pour l'usage de certaines substances, donc sans modération, et notamment sur le plan de la dive bouteille. Hein, il a tendance à faire des mélanges pas toujours très, très heureux, et notamment il y a eu un dérapage lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes. Alors, lorsqu'il était gamin, c'est toujours intéressant d'essayer de découvrir un petit peu justement les coulisses et puis l'histoire.
Et le pourquoi du comment.
Pourquoi du comment. Donc il faisait des petits films avec une caméra Super 8, c'était celle de son père. Mais c'est vraiment en tant qu'acteur qu'il a pris goût à l'univers cinématographique. Et puis ensuite, il a voulu se diriger vers la réalisation. Il s'est inscrit à l'école du cinéma de Danemark. Et son film de fin d'année lui a valu la reconnaissance des critiques et surtout une place dans le cinéma mondial, parce qu'il était déjà sur la piste de films étrangers. étranges, voire expérimentaux. Moi, je me souviens, j'avais vu le premier film que j'ai vu, c'était Element of Crime.
Ouais.
Ensuite, il y a eu Europa, donc je les ai vus au Festival de Cannes. Et il a été remarqué au départ par les cinéphiles, par vraiment les amateurs de ce cinéma très pointu. Et ensuite, il a œuvré à travers une trilogie baptisée Cœur d'or, qui a été ouverte avec Breaking the Waves. Et ça, c'est le film qu'il a vraiment fait connaître donc, au grand public et dans le bain du cinéma mondial. Et puis, Théo, il faut préciser que c'est le créateur du Dogme. Donc ça, c'est une charte technique, c'est une sorte de bible où il y a le commandement de ce qu'un réalisateur doit faire ou ne pas faire.
Bah ouais, mais c'est un personnage assez étrange, assez mystérieux. Moi, j'ai entendu parler d'un film, je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est un film en deux fois, c'est Nymphomaniac, ça s'appelle, où il a collaboré avec Charlotte Gainsbourg, par exemple. C'est des films qui, je ne sais pas comment ça va être diffusé au cinéma, mais ça va être, il va y avoir une restriction sur l'âge, je pense.
Oui, alors ce sont des films très très choquants. Il y a aussi Antichrist, hein, qui avait
sûr,
été présenté au Festival de Cannes et qui avait permis à Charlotte Gainsbourg d'obtenir le prix d'interprétation féminine. Et c'est vrai qu'il choque. Il provoque, mais c'est le but affiché. Et il trace dans, vraiment son sillon, un cinéma expérimental toujours, inventif aussi. Moi, je me rappelle, en 2011, c'était lors de la 64e édition du Festival de Cannes, j'avais été vraiment bluffé par ce film qui est un film de la fin du monde, Mélancolia, avec Charlotte Gainsbourg. Il y avait aussi à ses côtés Kirsten Dunst, où on voyait comment une famille tentait d'échapper à cette fin du monde programmée. C'était crépusculaire. C'est un cinéma qui marque et qui est absolument unique. Et voilà. Alors après, le personnage, il y a à la fois le personnage à la ville et le personnage aussi à l'écran. Il faut parfois distinguer l'homme de son œuvre. Il y a eu des dérapages, notamment des propos presque favorables à Hitler,
au
nazisme. Et là, je pense que là, il était très imbibé au moment de. Après, c'est quelqu'un de comme tout lui fait peur. Je le disais. Hein. Donc, il a besoin de ça aussi pour se donner une contenance et pour affronter des conférences de presse, les journalistes du monde entier. À Cannes, c'est impressionnant et ça a de quoi angoisser, surtout si on est dans la vie très angoissé, comme ça semble être son cas.
Et l'ensemble de ses œuvres donc sont à retrouver dans nombreux cinémas en France. J'espère que ce sera le cas à Nevers avec au moins un ou deux de ses films à faire, à suivre. On en reparlera évidemment. Si c'est le cas. Laetitia, il y a quelque chose que toi tu aimerais reparler, parce qu'on en a déjà parlé, c'est ce qui arrive courant mois d'août au cinéma Mazarin, je crois. On en parle juste après ça, écoutez.
Yes, c'est Metallica et son M72 World Tour qui débarque sur grand écran au ciné Mazarin. Ça va être les 19 et 21 août prochains. Ça va être deux soirées qui vont être diffusées en direct d'Arlington au Texas. Donc, événement cinématographique mondial qui va voir le légendaire groupe jouer deux soirées. Alors, vous pouvez aller aux deux soirées parce que ça va être deux setlists qui vont être complètement différentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font sur la tournée. Hein. Ils l'ont fait au Stade de France en mai dernier. Il y a un répertoire de chansons qui vont couvrir plus de 40 ans de carrière puisque Metallica va piocher aussi bien bien dans son premier album Kill 'Em All qui date de 83 ouais. que dans 72 Seasons qui est sorti en avril dernier. Donc voilà, il y aura de tout son répertoire pour ces deux soirées les 19 et 21 août prochains au cinéma Zarin.
Et c'est possible de réserver donc dès maintenant ces places. C'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant au cinéma Zarin, mais même dans les cinémas en général. Ciné West est assez spécialiste de ça, c'est la diffusion de concerts au cinéma. Ça va être le cas aussi au mois de septembre avec Orelsan, avec son Civilization Tour. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Manuel ? Est-ce que tu trouves que c'est une expérience sympa, finalement ?
Oui, moi, je suis un aficionado. J'aime beaucoup ça. J'ai vu récemment, par exemple, le concert de Johnny Hallyday, ouais. De 93.
Ouais, c'était il n'y a pas longtemps, ça.
Voilà, c'était le 15 juin. C'était le concert pour les 50 ans de Johnny. Ouais. Au Parc des Princes, filmé caméra à l'épaule, où on voit vraiment les coulisses. Alors là, c'est dans une version en plus qui a été nettoyée, remasterisée pour avoir une qualité de pellicule. Et puis, c'est vrai que dans ce concert, puisque Johnny, c'était la surenchère de son arrivée sur scène, on se posait la question de savoir comment il allait faire son apparition. Et donc là, il avait choisi de venir carrément.
Par le public, par la fosse. Ouais.
On le voit pendant 15 minutes. Il tente de se frayer un passage au milieu de la foule. Il y a quelques gardes du corps. Il y a Jean-Claude Camus, son producteur de l'époque, qui est à ses côtés. Et on voit la dimension mythique, c'est l'icône, c'est-à-dire que les fans veulent le toucher.
Ouais.
C'est le dieu vivant. Et c'est impressionnant. Et puis après, on le voit sur scène. Il y a eu des guests, il y avait Sylvie Vartan, ouais. Eddie Mitchell. Donc, pour revenir à ta question, oui, moi je trouve que c'est très. On est vraiment dans un concert, et parfois, il faut l'avouer, on voit beaucoup mieux que lorsqu'on est dans des concerts géants, comme récemment le groupe Amas Stadium, par exemple, pour les concerts de Mylène Farmer,
ah oui,
groupe
Amas Stadium de Londres.
J'y étais, absolument.
Alors moi, j'ai jamais eu encore l'occasion d'aller à un concert au cinéma Zarin. Je connais quelqu'un qui allait voir les Vieilles Canailles.
Oui.
C'est ma mère.
Je l'ai vu aussi, pas au cinéma Zarin, mais je l'ai vu, ouais, c'était bien.
C'était sympa, ouais, ouais c'était sympa, il paraît. Mais par contre, Orelsan, je vais y aller. Je voulais aller voir Coldplay, mais j'ai pas eu l'occasion non plus parce que moi j'avais autre chose à faire. Mais j'irai voir Orelsan au mois de septembre, je pense, parce que c'est une expérience que j'ai envie de voir une fois quand même dans ma vie.
Et puis, pour les Vieilles Canailles, par exemple, je me souviens que les spectateurs applaudissaient dans la salle,
oui,
comme s'ils étaient au concert.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc c'est une ambiance.
Et pour Coldplay, les gens ont dansé pour Coldplay. Et en plus, il y avait, alors, obligation entre guillemets, mais de venir en fluo dans la salle. Parce que Coldplay, voilà, c'est très coloré comme musique et comme show. Et donc, du coup, ça apportait encore quelque chose, je trouve, à cette expérience, et c'est vachement sympa. Justement, la couleur, Manuel, on va en parler tout de suite, parce qu'avant de terminer avec un film que Laetitia sort de son grenier, eh bien, on va se diriger dans les soirées événements au cinéma Zarin. C'est un film attendu par les jeunes filles, mais pas que, qui va arriver en avant-première mardi. Pas besoin de donner le nom, juste écoutez.
Hé, hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir ?
Bien sûr ! J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer ?
Trop cool. You can find me under the
lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve.
Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort ? When my heart breaks. Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. When my world shakes. Douche à l'eau froide. Oh. Je suis tombée du toit. Ah. Et mes talons touchent le sol maintenant.
Pieds plats.
C'est quoi la solution ? Il faut que tu ailles dans le vrai monde.
Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient.
Le premier, le talon haut.
Non, t'as envie de savoir, ok ? Recommence.
Closer, I am fine. Closer, I am fine.
Je viens avec toi.
D'accord. Wow, c'est ça le vrai monde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ces hommes me regardent ?
Ils me regardent, moi aussi.
Barbie dans le vrai monde ?
C'est impossible.
Si jamais ça fuit, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde.
Ce sera...
catastrophique!
On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh.
Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Even if nobody else sings
along. Les humains n'ont qu'une seule fin.
Attrapez cette Barbie!
Les idées, elles, sont éternelles.
Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie.
Mais je suis un homme.
Pas un médecin.
Je peux parler à un médecin?
C'est ce que vous êtes en train de faire.
Je veux un stylo qui fait clic.
Non.
Et un truc qui coupe.
Non.
Ah,
appelez
voilà.
La sécurité.
Docteur!
Is Barbie Boots if you're still in doubt? Et ouais, Barbie est pour la première fois au cinéma, c'est incarné par Margot Robbie avec Ryan Gosling en Ken. Dans la création, adaptation de Greta Gerwig, Barbie et Ken vont devoir partir de Barbieland pour affronter le vrai monde. À quoi vous vous attendez avec ce film ?
Eh ben justement, pour moi, j'ai vu la bande-annonce, ça me paraît totalement inclassable.
Ouais,
il y a du second degré, parce que quand on voit Ryan Gosling et Marco Robbie, tous les deux, couple improbable, mais est-ce que c'est une satire ? Est-ce que c'est une caricature ? Faut vraiment aller le voir, mais je suis tenté quand même, ça m'intéresse.
Mais on en parle souvent, hein, Letty, tous les deux, et en fait, ce film, parce qu'en fait, on en parle depuis la bande-annonce, depuis l'affiche qui a fait un petit peu parler, parce que rappelle-moi l'histoire de pourquoi ça avait fait parler la bande.
En gros, sur l'affiche française, c'est marqué « Elle, c'est Barbie,
ouais.
Elle sait tout faire », un truc dans le genre, et en dessous, c'est marqué « Lui, c'est juste Ken ».
Voilà, c'est
enfin,
ça.
C'est, ouais, voilà. Ça fait un jeu de mots un peu graveleux. Quoi.
Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et après, il y a eu la bande-annonce, et en fait, c'est ce qu'on s'est dit avec Letty. En fait, je pense que ça va clairement être un film second degré, grotesque à mort.
C'est ce qu'on perçoit.
Mais à voir.
À voir sur la durée, parce que sur la bande-annonce, déjà, le climat est un petit peu ambigu. Sur une durée d'une heure et demie, voilà, à juger sur pièce.
Moi, j'irai parce que c'est Margot Robbie, de toute façon.
Ouais. Ta chouchoute.
Ouais, exactement. Depuis Babylone, j'ai envie de l'épouser.
Alors, moi, je l'avais déjà remarqué dans Il était une fois Hollywood.
Ah oui, déjà, avec Brad Pitt et DiCaprio.
Et DiCaprio. Ouais.
Mais j'ai 50% de chance de l'épouser, normalement.
Ah bon ? C'est un astrologue, non ?
Parce que moi, je suis d'accord, déjà. Ah. Il manque plus que les 50 autres pourcents.
Bah, tu pars sur de bonnes bases.
Ouais, c'est ça. En tout cas, vous pouvez la retrouver donc en Barbie. C'est mardi prochain à 20h en avant-première au ciné Mazarin. Juste avant de se quitter, eh bien, Laetitia, tu montes dans ton grenier.
Oui, alors ça y est, je suis montée pendant que vous parliez de Barbie. Là, j'ai récupéré le petit film en question. Théo, est-ce que tu as aimé la première saison de Stranger Things ?
Ouais. J'ai adoré. Ouais.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Super 8. C'est un film de science-fiction qui est sorti durant l'été 2011. Et pour moi, c'est un film qui est beaucoup trop sous-coté, dans lequel on trouve déjà toute cette vague de nostalgie de la fin des années 70, du début des années 80, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard. Mais Super 8, bah, c'est Stranger Things avant l'heure. Et les frères de Ford ont beau prétendre le contraire, c'est difficile à croire qu'ils ne soient pas inspirés de ce film pour créer leur série phénomène. Alors, même s'il n'a pas encore réussi à accéder au statut de film culte, Super 8 a pourtant fait pas mal de buzz à sa sortie, bah notamment parce qu'il a été réalisé par J.J. Abrams, qui avait déjà bossé sur plusieurs blockbusters à succès, et puis sur plusieurs séries, dont Lost, Les Disparus, qui avait tenu en haleine des milliers de téléspectateurs pendant 6 saisons.
Ça passait sur la 6
Sur TF1 même.
Ah, sur TF1 mm-hmm. Ah ok, je croyais que c'était sur la 6.
Grosse série qui venait de se terminer à l'époque, et J.J. Abrams, bah, c'était un des créateurs et un des showrunners de cette série-là. Mais c'est pas tout, hein. Le buzz, il est aussi venu du fait qu'à la production de Super 8, on retrouve Steven Spielberg, l'idole de J.J. Abrams, qui signe d'ailleurs avec ce long métrage un magnifique hommage à la filmographie de Spielberg. Alors ça, on va en reparler dans un instant, mais avant, pour se mettre dans l'ambiance, bande-annonce.
J'ai rien contre tes copains, je les aime bien tes copains. On n'a plus la même vie maintenant.
Il faut que j'aide Charles à finir son film.
T'as le droit de fréquenter les jeunes de ton âge qui passent pas leur temps avec des caméras maquillées en monstres.
Tu peux fermer les yeux, s'il te plaît ?
Oui.
Et... action !
train de marchandises a déraillé cette nuit. On ignore encore ce qu'il transportait.
Il faut en parler à personne.
Je sais.
Je comprends que vous ayez quelques inquiétudes.
Colonel, vous ne me cachez rien dans cette affaire.
Je vous assure que la réponse est non.
On a reçu des appels de gens qui ont trouvé des chiens de la région, mais c'était pas des gens de la région.
Lucy !
C'est à croire qu'ils se sont tous enfuis.
J'ai des dégâts matériels, j'ai des vols. J'en suis à 9 disparitions. Il se passe des choses dans le coin que je n'arrive pas à expliquer.
Il faut trouver cette chose.
Ça s'annonce mal, les gars.
Va-t'en !
Je l'ai vu. Personne ne me croit.
Moi, je vous crois.
Oh, purée.
Et donc, Laetitia, c'est quoi l'histoire de Super 8 ?
Alors, l'histoire de Super 8, ça se passe durant l'été 79, et ça, c'est vachement important. C'est dans une petite ville de l'Ohio que tout ça prend place. Et là, on a Joe et ses copains qui vont décider de profiter des vacances eh bien, pour tourner un petit film de zombies amateurs avec une caméra Super 8. Et une nuit, alors que la petite bande d'amis tourne une scène, eh bien, ils vont être témoins d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire, et ils vont pas tarder à comprendre qu'il s'agit pas d'un simple accident entre leur professeur de biologie qui semble avoir provoqué la collision et qui les somme de jamais répéter, enfin de jamais même révéler qu'ils étaient sur la scène à laquelle ils venaient d'assister, ouais. Entre l'armée qui débarque immédiatement sur les lieux et puis les événements inexplicables qui vont se produire en ville les jours suivants, comme alors il y a tous les chiens qui s'enfuient, il y a des personnes et des objets qui se volatilisent, et bien Joe et ses amis vont décider de découvrir toute la vérité sur cette étrange affaire, une vérité qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer.
C'est un film où il y a un peu une atmosphère, un peu Spielberg dans ce film.
Oui, dans ce film où les héros sont une bande de gosses face à une créature venue d'ailleurs et face aux adultes, alors qu'il s'agisse de leurs parents ou de l'armée, c'est impossible de pas penser à E.T. l'extraterrestre, à Rencontre du troisième type, ou même aux Goonies. Mais à mon avis, Spielberg, ça a pas été la seule inspiration du réalisateur J.J. Abrams, parce que dans Super 8, on retrouve également beaucoup d'influence, je trouve, de Stephen King. En effet, comment ne pas penser à la bande des ratés de ça ? Alors le roman et le téléfilm, parce que le film il va sortir plus tard en 2017, ouais. Et puis on pense aussi évidemment aux quatre amis dans Stand By Me.
Et d'ailleurs, Steven Spielberg, Stephen King, ça va être des influences majeures aussi pour Stranger Things.
Et ouais, tout à fait. Hein. Puis les similitudes entre la série des Frères Duffer et entre le film Super 8, ça s'arrête pas là. Tout d'abord, donc, on a cette bande d'amis qui est composée au départ de Joe, Charles, Preston, Martin et Carrie, donc des garçons, à laquelle vient se greffer une fille, Alice, qui va jouer un rôle déterminant dans l'histoire, tout comme Eleven qui viendra troubler l'équilibre de la bande de garçons dans Stranger Things. Stranger Things, qu'il faut le rappeler, va sortir 5 ans plus tard, en 2016, et puis il y a toute cette nostalgie qui est omniprésente, alors à travers des objets phares de l'époque, on a les BMX, on a les talkie-walkie qui seront également au premier plan dans Stranger Things, sans oublier cette histoire dans laquelle il est question d'une créature venue d'on ne sait où, à cause d'expériences secrètes, je le précise, du gouvernement, le tout sur fond de guerre froide, alors tu rajoutes à ça une bande-son aux petits oignons avec des hits de l'année 79, et tu retrouves dans Super 8 tous les ingrédients qui vont faire ensuite la gloire de Stranger Things.
Et puis si on parle d'objets typiques de l'époque, on en parlait tout à l'heure avec Manuel, justement,
oui.
Le titre du film Super 8, eh bien, ça fait référence à une caméra qui était en vogue dans les années 70-80.
Oui, la caméra Super 8 qui a été lancée en 65, si je dis pas de bêtises. Alors elle tire son nom du format de sa pellicule et c'était la référence en matière de vidéo amateur pour deux raisons. Déjà, il y avait son prix, elle était abordable, et puis ensuite il y avait sa qualité parce que ses images, elles étaient tout à fait honorables. D'ailleurs, beaucoup de cinéastes en herbe ont fait leurs armes avec des caméras Super 8. Lars von Trier, comme Manuel le citait tout à l'heure, et puis aussi Steven Spielberg et J.J. Abrams. Alors là, les temps ont bien changé, puisque de nos jours, il suffit d'avoir un smartphone.
Un dernier argument, chacun, pour convaincre les auditeurs de regarder Super 8.
Alors moi, mon argument, c'est la scène de la collision ferroviaire. Alors ça intervient au début du film, ouais. Et cette scène, elle est juste incroyable. J'avais vu le film au cinéma à sa sortie, et cette scène où le train se crache sur grand écran, moi je l'avais trouvée époustouflante. Et d'ailleurs, elle est tellement intense qu'on s'y croyait presque, et je m'étais demandé si l'effet il serait le même sur un écran de télévision. Alors verdict, après avoir revu ce film il y a 2-3 jours, sur les écrans de maintenant, ça fonctionne vraiment très 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 bien, on en prend plein les mirettes. Donc j'ai envie de vous dire, foncez visionner cette petite pépite du 7ème art qui est trop sous-estimée, qui est super 8. Vous allez passer un super moment. C'est le film idéal pour une petite soirée d'été, et puis vous pourrez en profiter pour vous amuser à retrouver tous les clins d'œil cinématographiques que le réalisateur a glissé, et puis aussi tous les clins d'œil à ses propres œuvres. Et le film en est truffé, et en plus il est dispo sur Canal et sur Paramount+.
Manuel, on retourne voir Super 8 ou pas ?
Ah oui, on fonce voir Super 8. Bah, j'adhère totalement à ce que vient de dire Laetitia. C'est vraiment la matrice de Stranger Things. C'est ouais. Absolument incontestable. Et puis au moment où, depuis le début d'année, on en a parlé dans l'émission avec The Fabelmans de Spielberg.
Ouais, c'est un peu dans cette gêne de film-là. Ouais.
Exactement, c'est l'amour du cinéma. Et c'est incontestable avec comment une passion naît. Et on est totalement dans cette dimension. Là, alors Laetitia, elle citait les Goonies, on peut parler des Gremlins aussi, il y a même Explorers de Joe Dante, et puis c'est vrai qu'il y a la nostalgie, et retrouver par exemple des objets Tokiwoki, Walkman, Game Boy, voilà, tout ça c'est forcément une émotion, et puis il y a le côté un peu Madeleine de Proust pour certains, et c'est un film qui fonctionne remarquablement, et c'est pas un hasard s'il avait été produit par Steven Spielberg.
Et c'est un film donc qu'on peut retrouver sur, tu as dit Canal.
Alors en ce moment, il est disponible encore pendant quelques temps sur Canal, et sinon il est sur Paramount+.
Voilà, pour donc retrouver ce film qui s'appelle Super 8 et que vous pouvez voir et revoir pour des belles soirées d'été, comme dit Laetitia. Merci Manuel, merci Letty justement d'avoir été avec moi pour cette dernière d'action.
Oui, merci à vous deux, merci pour justement m'avoir accueilli et pour avoir chroniqué, donc essayé de chroniquer l'actualité du 7e art. Et moi je termine avec cette formule, allez au cinéma le vrai sur grand écran.
Est-ce qu'on se revoit à la rentrée, Manuel ?
Mais bien sûr, avec grand plaisir.
Super. J'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu plus de choses aussi ensemble, ce serait bien.
Écoute, on va voir ça concrètement.
Ouais.
Pourquoi pas hein, l'avenir nous appartient.
Il faut ouais, on ira vers un avenir radio ensemble, Manuel.
Ah c'est bah, Nani Moretti, je vois que tu es dans une dimension transalpine.
Ouais, ça y est,
ça sent l'Italie, hein. Ça sent la botte.
Je suis en plein dedans. Mais juste avant, j'ai encore quelques rendez-vous. On se retrouve à 13h sur Bac FM avec les infos de la mi-journée et mes nouveaux invités du jour. On va parler d'Humanity 58. C'est une très belle association sur Nevers. On en parle à 13h. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.